versets 1 à 5. Et je reprends un petit peu le plan qu'on voit dans les deux émissions qu'on a vues, où vous avez une phrase en bas qui résume le thème. Et par exemple, ça aurait pu être « J'ai pris une décision fatale pour moi et ma famille ». Et on va voir un petit peu qui, quoi, comment, pourquoi. Dans cette décision fatale, il faut savoir, dans ces cinq premiers versets, que vous avez cinq décisions parallèles qui s'imbriquent dedans. La première, ça fonctionne plus. La première décision, c'est une décision divine. Dès le premier verset, on se rend compte qu'il y a une famine dans le territoire de Juda, donc là où les héros, entre guillemets, de notre histoire habitent. Cette famine, quasiment à chaque fois dans la Bible qu'il y a une famine, c'est un jugement de Dieu. Dieu condamne son peuple pour lui dire « Reviens à moi ». Et je t'envoie une famine, parce que la famine, c'est quelque chose qui fait extrêmement souffrir à tous les niveaux. Et cette famine, elle est un petit peu en contraste avec un premier mot-clé de cette prédication qui est Bethléem. Bethléem, c'est là d'où vient Élimélec, Naomi, les deux parents, héros malgré eux de notre histoire. Et Bethléem, ça veut dire maison du pain. Il y a une famine dans la maison du pain. Premier élément. Cette famine va entraîner une décision maritale catastrophique. C'est la crise. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas à manger, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de moisson. Et le peu qu'il y a, ça va à certaines personnes ou des gens qui sont très riches. Et vous avez une famille, donc Élimélec, le monsieur, sa femme Naomi, qui se disent « qu'est-ce qu'on fait ? On a deux enfants, deux jeunes mecs, on n'a rien à manger. » La décision va être toute simple, entre guillemets au début, on va déménager, on va partir, on va fuir. La fuite, ça peut être une stratégie qui est bonne, dans certains cas, mais pas tout le temps. Et là, des fois je me mets à la place d'Élimélec, sa famille meurt de faim, peut-être qu'il y avait une pression de sa femme Naomi qui lui disait « chérie, oh, prends une décision là, on est en train de mourir, toutes nos familles autour de nous meurent, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Élimélec, qu'est-ce qu'il dit ? « Ok, on part. » Sauf que c'est facile de dire « on part », mais on part où ? Et là, vous rappelez le plan tout à l'heure, ils vont traverser la mer morte et ils vont arriver dans un territoire qu'on appelle Moab. Et ce qui est intéressant avec ce territoire, c'est qu'au tout début de ce chapitre, on peut lire que Élimélec, le papa, avait décidé d'un court séjour. On va y aller juste un petit peu. Sauf que ce court séjour, il faut savoir que pour aller de Juda à Moab, il y avait à peu près entre 7 et 10 jours de voyage. Faire ça avec des enfants, c'était compliqué. Il y avait plusieurs déserts à traverser. Il y avait, pour les connaisseurs, 1300 mètres de dénivelé. Donc c'était un petit peu compliqué, surtout quand vous avez des enfants. Et où est-ce qu'il choisit d'aller ? À Moab. Moab, pour résumer, c'est le pire endroit possible sur Terre à l'époque. Alors pourquoi ? Déjà, la réputation de Moab. D'où ça vient Moab ? Ça vient d'un texte dans Genèse qui explique que vous avez deux villes catastrophiques, Sodome et Gomorre, qui sont détruites. Vous n'avez que 4 personnes qui survivent. Parmi ces 4, il y en a une qui regrette, la femme de Lot, qui est transformée en statue de sel. Et vous avez Lot, qui se retrouve avec ses deux filles. Ces deux filles se disent, on n'a pas de descendance. Elles font boire leur père, elles couchent avec leur père. Vous avez deux enfants, et l'aîné, c'est Moab. Commence bien. Moab vient d'une relation incestueuse. Dieu va même déclarer que les Moabites, les habitants de Moab, les descendants de Moab, vont être maudits jusqu'à la 10e génération. Qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Vous imaginez ? Vous rentrez, on vous dit, ah non, vous êtes de tel endroit, vous n'avez pas le droit de rentrer. Parce que c'est marqué dans la Bible. Heureusement, ce n'est pas le cas. Moab va être un oppresseur et va vraiment faire beaucoup de mal à Israël, à Juda, notamment dans les juges. Moab est connu par rapport à un dieu qu'on appelle Kemosh. Kemosh, c'est, pour beaucoup de commentateurs, une abomination, ou, c'est écrit plusieurs fois, même dans la Bible, c'est une ordure. C'est un dieu qui demandait de faire des choses absolument ignobles. Il y a à peu près 150 ans, on a retrouvé une stèle, donc la stèle de Mécha, et elle est actuellement au Louvre. Et cette stèle, elle témoigne d'une histoire qu'on retrouve dans la Bible, comme par hasard, dans 2 Rois au chapitre 3. Vous avez le roi Moabite, Mécha, qui est conquis, envahi par à la fois le roi d'Israël et le roi de Juda. Et il prie Kémosh pour dire « délivre-moi ». Et qu'est-ce qu'il va faire pour que Kémosh le délivre ? Il va tuer son fils. Il va sacrifier son propre fils. Donc maintenant, on revient à notre histoire. Élimélec, Naomi. Ils vont dans un pays où le Dieu demande de tuer des enfants. Donc mettez-vous à la place des deux garçons de Élimélec et Naomi. Papa, il a choisi d'aller dans un pays où on tue des gens comme nous. Alors, je ne sais pas comment étaient les relations dans la famille, mais ça devait être un petit peu compliqué. Là, on pourrait dire, waouh, quel mari irresponsable. Et ce qui est triste avec Kémosh, encore une fois, un dernier exemple dans la Bible, c'est que Salomon a construit un autel pour Kémosh. Et c'est vraiment quelque chose qui peut gangréner même la personne la plus sage après Christ qui n'ait jamais vécu sur terre. Même Salomon a été pris par un piège d'une idole. Donc à combien plus forte raison, nous, on doit faire vraiment, vraiment attention. Troisième décision parallèle à cette décision fatale du mari, on va parler un petit peu des prénoms. Les prénoms qu'on donne aux enfants. Ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il y a beaucoup de prénoms. Notamment le héros de notre histoire, Élimélec. Ça signifie « mon Dieu est roi ». Naomi, sa femme, ça veut dire « ma gracieuse, charmante, agréable ». C'est pas mal comme prénom quand même. Hein. Par contre, les enfants, leurs deux garçons. Le premier, c'est « Machlon », ça veut dire « malade ». Vous imaginez, vous appelez votre enfant « malade ».« Malade, viens ici ». Malade, va te coucher. Mais c'est comme ça qu'il s'appelait. Et deuxième garçon, Kiljon, ça veut dire languissant, abattu, lent. Mettez-vous à la place des deux garçons. On vous appelle malade ou languissant à longueur de journée. Je suis persuadé qu'au bout d'un moment, vous y croyez dur comme fer, que vous êtes comme ça. Ça fait penser au passage de Nabal, l'histoire avec David. On se rend compte que même sa femme dit que Nabal, ça veut dire insensé. Et il est complètement insensé. Et cette semaine, dans Méditation quotidienne, je crois que c'était mercredi, il y avait un passage sur les noms qu'on porte et que l'on doit supporter et qui des fois ont une influence vraiment négative sur nous. Et on va voir dans ce passage que beaucoup de noms peuvent avoir une influence négative ou on peut vraiment s'en délivrer. Élimélec, le papa qui a pris la décision, il va vivre une tragédie, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il va mourir. Donc il va laisser sa femme et ses deux enfants. Et là, Naomi, sa femme, elle va devoir prendre une décision assez forte, assez importante, elle va dire « je vais m'arranger entre guillemets pour que mes enfants, mes deux garçons se marient ». Le fait d'avoir une descendance pour les Hébreux, pour les Israélites, c'est quelque chose de fort, d'important, qui prouve plein de choses dans la famille, et notamment la vigueur des femmes, et les fils, les enfants ont une valeur vraiment symbolique forte. Sauf que, dans cette décision matriarcale, vous avez deux femmes qui vont arriver, et deux femmes moabites, donc des femmes qui appartiennent à un peuple haï de Dieu et ennemi de Dieu et du peuple juif. Ces deux femmes, Orpa, la première, alors elle a un nom super gentil, ça veut dire acharnement, persévérance, opiniâtre. Et la deuxième, qui est la héroïne de ce livre, Ruth. Et Ruth, rien que son nom est doux, ça veut dire amitié. Naomi, elle a perdu son mari, elle est veuve, douleur incompréhensible, inqualifiable. Et quelque temps après, on ne sait toujours pas pourquoi, mais elle perd ses deux garçons sans descendance. Quand on s'arrête là, à ce verset-là, quand je regarde cette histoire, souvent on a ce réflexe humain de se dire « bien fait pour eux ». Ils ont fait le mauvais choix, ils sont allés dans le pire pays, pur et c'est bien fait pour eux. Bien sûr, c'est absolument pas la chose à avoir ou le réflexe à avoir lorsqu'on écoute ce type d'histoire. Et vous rappelez des jugements qu'on peut avoir dans des émissions comme « C'est mon choix », « Purée, mais pourquoi il a fait ce choix-là ? Mais qu'il est bête !» Et à quel point on catégorise les gens en cas sociaux. Vous êtes des cas sociaux, nous on est supérieurs. Je vous rassure, on est tous des cas sociaux. Aux yeux de Dieu, on est tous des cas sociaux. Et puis ensuite, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit « Et nous, dans tout ça ?» En situation de crise, est-ce qu'on aurait fait pire ou mieux qu'Élimélec ? Ou vraiment pire que lui ? Ce qui est intéressant avec l'histoire d'Élimélec, c'est qu'on se rend compte qu'il avait deux possibilités. Et on a tous ces deux possibilités jour après jour. Soit on reste proche de Dieu, soit on s'en éloigne. Et quand on s'en éloigne, il y a forcément des conséquences. Et quand on lit ce texte, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'éloignement. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir à peu près. À gauche, c'est la stratégie d'Élimélec, abandonner ou fuir. Et à droite, c'est la stratégie biblique, persévérer. Élimélec et sa famille, ils vont fuir Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Vous vous rappelez Jean 6, je suis le pain de vie. Et Jean 10, je vous donne la vie et une vie en abondance. Lorsqu'on refuse cette vie en abondance, lorsqu'on refuse que Christ soit notre pain quotidien, il y a une perte de contact avec Dieu et la communion avec Dieu. Et cette perte de contact, elle est, tôt ou tard, catastrophique. Autre élément qu'Élimélec a quitté, un autre nom qu'on donne à Bethléem, c'est Éphrata. Et Éphrata, ça veut dire plénitude. Est-ce que jour après jour, on a envie d'avoir la plénitude de la présence de Dieu ? Relisez le psaume 16. Si vous êtes dans le coma par rapport à ça, relisez le psaume 16, c'est quelque chose de fort et de beau, où on parle de délices éternelles à la droite de Dieu. Si on fuit ça, tôt ou tard, une perte de plaisir. Et si on a une perte de plaisir, ça sert à quoi d'y retourner ? Si j'aime pas les légumes, pourquoi j'en mangerai ? Si j'aime pas la présence de Dieu, bah, je peux m'en passer. Et c'est la pire décision qu'on peut avoir. Troisième élément qu'ils vont quitter, c'est Judas. Judas, louange à l'Éternel. Lorsqu'on perd cette volonté de louer Dieu dans notre vie de tous les jours, individuellement, en famille, en assemblée, en communauté, trois choses arrivent rapidement, amertume, colère, critique. Et on est rongé de l'intérieur. Relisez Hébreux 12, ces deux versets-là où on parle de racines d'amertume qui nous rongent. Et quatrième élément que Élimélec a quitté, Israël, et notamment la parole de Dieu, l'assemblée de Dieu et les promesses de Dieu. Combien de fois on oublie ou on refuse certaines promesses de Dieu ? Et ces quatre dimensions de perte ou de retrouvailles peuvent vraiment, vraiment nous toucher, nous travailler jour après jour. Aux côtés de cette décision maritale fatale, un deuxième point, une décision douloureuse. Et là, on va s'intéresser à Naomi. Naomi, elle a perdu tout ce qui lui était cher. Son mari, ses deux fils. Et elle se retrouve dans un pays étranger où elle se dit, mais waouh, il faut que je fasse quelque chose. Dans des impasses, très souvent, on réfléchit à changer ou à bouger les choses. Et c'est un petit peu ce qu'elle va faire. Le début du verset 6, on voit un récit vraiment dynamique, où le texte dit, elle se leva. Elle apprit qu'il se passait quelque chose en Israël. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est la pluie qui est revenue. Donc la famine qui touchait tout ce territoire, Israël, Juda, Moab, en Israël, la pluie est revenue. Donc elle s'est dit, les moissons vont revenir. Donc je peux retourner dans mon pays. Elle en peut plus. Elle est fatiguée, elle est épuisée et elle veut que tout cesse. Ce qui est intéressant avec ce passage, c'est qu'on peut voir quelques étapes d'un réveil spirituel. Un réveil personnel ou un réveil en tant que communauté ou en tant que famille. Et là, dans ces quelques versets, on peut voir deux premières étapes du réveil spirituel. Elle reconnaît qu'elle n'a rien à faire dans ce pays. Elle reconnaît son vide. Son échec, son péché. Et ce dont il faut faire très très attention, c'est lorsqu'on reconnaît son échec, son péché, faut faire attention aux excuses. Souvent, on se trouve des excuses. Oui, mais Seigneur, je suis comme ça. Ou si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais comme ça. Ou parce que mes parents ont fait ça. Donc, c'est pas forcément complètement de ma faute. Une phrase qui m'a marqué dans le livre que je vous ai montré. Le sang de Christ ne nous purifie pas de nos excuses, mais de nos péchés. Et c'est une différence vraiment importante. Lorsqu'on reconnaît son péché, pensez à David et Bathsheba, il y a une deuxième étape qui arrive, c'est une rupture avec ce péché. Et cette rupture, elle doit être absolument complète. C'est une histoire qui m'a marqué. Un monsieur qui rentre dans un ascenseur, il ferme, il est très pressé, il a envie de monter au 50e étage du building, et l'ascenseur, la porte se ferme, mais il ne monte pas. Et il s'énerve, « Allez, vite, oh Seigneur, s'il te plaît, j'en ai marre là, il faut vraiment que ça s'ouvre. » Et puis il y a un monsieur, un peu plus âgé, qui arrive dans l'ascenseur, qui rentre, puis il regarde le premier monsieur, il lui dit, « Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air énervé. » « Oui, ça m'énerve, je suis pressé, c'est toujours quand je suis pressé, l'ascenseur il monte pas, la porte, vous voyez, elle se ferme, mais ça monte pas, ça m'énerve, je suis un poisseux, j'en ai marre. » Et puis le monsieur, calmement, âgé, le regarde et lui dit, « Monsieur, la première porte est fermée, mais pas la deuxième. On va fermer la deuxième porte et je vous garantis qu'on va monter. » Il ferme les deux portes et ça monte. La rupture doit être totale. Dans ce passage, on voit que Naomi veut se débarrasser de tout ce qui est en lien avec son passé à Moab, et notamment ses deux belles filles. Et elle leur dit, s'il vous plaît, maintenant, vous devez partir. Versets 14 à 18, on va voir la réaction de ces deux belles filles. Est-ce que vous vous rappelez les deux belles filles, Orpa d'un côté et Ruth ? Orpa, ça veut dire, vous vous rappelez ? Opiniâtre, persévérante, acharnée. Et Ruth, amitié. Orpa, je trouve qu'elle porte pas très bien son nom. Parce que même si au début elle va s'accrocher à Naomi, elles vont pleurer ensemble, elles vont se lamenter, parce qu'elles veulent surtout pas se séparer. Au bout de la deuxième demande de Naomi, qu'est-ce qu'elle va faire, Orpa ? Elle va partir. Et elle va retourner vivre dans le péché avec les dieux et notamment Kémosh. Ruth, quant à elle, avoir une attitude complètement opposée. Et c'est les deux versets que j'ai envie de lire avec vous, versets 16 et 17, où c'est Ruth qui parle, et c'est une des plus belles déclarations d'amour de toute la Bible. Ruth qui parle à sa belle-mère Naomi. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon Dieu, et ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple, pardon, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » C'est plus qu'une promesse, c'est un vœu. Et ce vœu, la seule chose qui va séparer ce vœu, c'est quoi d'après le texte ? C'est la mort. C'est à la fois une déclaration d'amour, comme je l'ai dit, qui est une déclaration envers trois éléments distincts. Envers une personne, Naomi, je ne te quitterai pas. Envers une communauté, le peuple d'Israël, de Juda. Et envers Dieu, Yahvé. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec nos vies, à nous, personnellement. Cette déclaration, c'est une conversion. Où on s'engage envers une personne, Christ. Où on s'engage envers une église, lorsqu'on se fait baptiser, lorsqu'on s'engage dimanche après dimanche, semaine après semaine dans une église, et où on s'engage aussi et surtout envers Dieu qui nous relève. Ruth est prête à vivre, à demeurer, à persévérer et à mourir. Et ce qui est fort avec ce texte encore, c'est que on voit toute la plénitude de la grâce de Dieu. Ruth, son CV, il n'était même pas lisible. Elle était moabite. C'était même pas la peine de réfléchir, d'espérer, croire qu'elle puisse un jour appartenir à la communauté de Dieu et être en plus dans la descendance, enfin, une ascendante de Christ et l'arrière-grand-mère d'un des plus grands rois qui n'ait jamais existé, le roi David. On voit ici toute la plénitude, la miséricorde, la compassion et la grâce de Dieu qui peut récupérer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand tant que la personne souhaite s'engager à 100%. Pour terminer, on va voir que lorsque Naomi rentre, il y a Ruth qui s'accroche. Ruth, elle lui dit, comme on l'a vu, je ne te quitterai pas. Et lorsqu'elles arrivent dans leur ancienne ville, dans leur ancien territoire, vous avez énormément d'émotion et de compassion. Les gens sont à la fois heureux de les revoir, enfin surtout Naomi bien sûr, mais en même temps tristes. Et le texte hébreu nous montre à quel point, d'après les mots qui sont donnés, Naomi avait des séquelles physiques sur son visage de toutes les souffrances qu'elle avait endurées durant ces 10 années d'exil. Elle se fait appeler Mara. Mara, c'est l'amertume. Je suis amère. Elle était amère envers elle, mais aussi envers Dieu. Et ce qui est fort dans ce passage, c'est que, outre l'accueil favorable des gens qui l'ont connue, elle parle de Dieu comme le Dieu tout-puissant. Elle a beau être amère, elle remet en même temps sa vie et qui elle est, sa situation, au Dieu tout-puissant. Si on reprend les dimensions de tout à l'heure, on a vu donc réveil spirituel, il faut une reconnaissance de son péché, il faut une rupture avec son péché, mais il faut un retour. Et ce retour doit être complet, total, authentique. Évitons les relations commerciales avec Dieu. Si je fais ça, tu dois faire ça. N'oublions pas que Dieu, ce n'est pas notre patron. Dieu, c'est notre Père et notre Dieu. Si on prend l'exemple de Naomi, ça fait 10 années, qu'elle n'a pas vu, par exemple, on peut prendre cet exemple-là, l'auteur parle de 10 années de rendez-vous manqués avec le sang de l'agneau coulé sur les portes de Bethléem pour célébrer la Pâque. Est-ce que des fois, dans nos églises, dans nos familles, est-ce que nous aussi, ça nous est arrivé de nous écarter de Dieu à tel point que on ne sait même plus si on veut être en communion, si on a besoin de lui, et on a besoin de lui. Et tous, ici présents, on a sans doute au moins un ou plusieurs Moab dans nos vies. Des endroits où on se dit « Oh, je vais faire un court séjour. Je vais m'y écarter tout doucement, tranquillement. » Et on est piégé. Rappelons-nous que le diable, il attaque avec un harpon. Ça rentre, et vous savez, le harpon, quand ça ressort, ça prend plein de choses au passage. Un réveil spirituel, un réveil personnel ou en communauté, peu importe, ça fait très mal, mais dans le bon sens du terme. Parce que c'est Dieu qui nous transforme. Et ce retour de Naomi, on peut le voir dans ces versets qu'il n'est pas complet encore. Parce qu'elle est amère. Elle est en colère. Et on a chanté un de mes chants préférés tout à l'heure. « Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. » Et combien de fois on devrait chanter « Je préfère me plaindre que de crier à toi. » « Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. » Au verset 21, on peut lire que Naomi dit « J'étais dans l'abondance. » Ok, bah pourquoi t'es partie alors? Elle dit « Quand j'étais là il y a 10 ans, au même endroit où je reviens, j'étais dans l'abondance. » Mais pourquoi t'es partie? Ah, il y avait la famine, mais pourquoi tu dis que t'es dans l'abondance alors? En situation de crise, la vérité, elle est souvent transformée. On ne sait plus trop. Et le grand danger, vous rappelez le tableau, quand on s'éloigne des 4 points de Dieu, on peut prendre les pires décisions possibles. On conclut? Quelques mots-clés pour résumer ce chapitre. Fuite. La famille d'Élimélec fuit. La famille est détruite. Il ne reste que Naomi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente, on déprime ou on se bouge? Différentes conduites. Naomi qui se lève, qui dit « Allez, je retourne. » Parce que je sais que Dieu est intervenu. Et ça m'a tellement rappelé le fils prodigue qui, au milieu du caca des cochons, s'est dit « Même les serviteurs de mon père, ils ont plus que moi, donc je vais y retourner. » Et quelle poursuite! Est-ce qu'on se dit « Bon, je fais ça, et ensuite je suis tranquille, la vie est belle. » Non. La vie est faite de retour dans la présence de Dieu. Dernière étape, les dimensions d'un retour, on a déjà vu donc la reconnaissance, la rupture, le retour, la réparation. peu importe dans quel Moab on se situe, dans quel Moab on est empêtré, et ce livre est excellent. Il parle du mariage, il parle du mauvais choix du travail, il parle de tous les types de mauvais choix qu'on peut faire. Dieu peut transformer des mauvais choix en beaux et bons choix. Et ça passe par la réparation. C'est sans doute l'étape la plus importante pour éviter l'amertume, la colère. Seul Christ nous offre cette réparation. Vous pourrez suivre tous les bilans, tous les commandements entre guillemets psychologiques qu'on peut vous demander pour prendre des bonnes décisions, faire les bons choix. La seule personne qui répare votre passé, vos péchés, c'est Christ. Les conséquences appartiennent à la discipline de Dieu. Lorsqu'on fait des mauvais choix, il y a forcément des conséquences. Donc les conséquences appartiennent à la discipline de Dieu. Par contre, la culpabilité n'appartient pas à la discipline de Dieu, elle appartient au diable. Et lui va jouer avec ça, pour nous rendre coupables et nous ramener dans la partie gauche du tableau, amer envers Dieu. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. Oui, mais c'est toi qui as fait la décision, qui a pris la décision, c'est pas Dieu. Et la dernière étape, et c'est tout le cœur du livre de Ruth, autour de la grâce, autour de la compassion de Dieu, c'est le recommencement. Le dernier verset de ce chapitre, c'est un message d'espoir qui va se profiler tout au long du livre de Ruth. Où Ruth et Naomi, comme par hasard, elles reviennent au temps de la moisson des orges. La moisson des orges, c'est fin avril, début mai, début, milieu du printemps, où on a envie de penser aux beaux jours qui vont arriver. C'est vraiment un message d'espoir et de paix. Un Dieu souverain, verset 22. Le timing de Dieu est parfait. Dieu sait ce qui est bon pour nous, beaucoup plus que nous-mêmes. La rédemption de Dieu. Dieu a un plan rédempteur qui commence en Genèse 1 et qui se termine à la fin d'Apocalypse. Et ce plan rédempteur, les seuls obstacles, souvent, c'est nous. À nous de rester dans la catégorie, vous vous rappelez, la colonne de droite du tableau, pour être proche de Dieu, pour vivre avec, pour, en Christ. Avant de terminer, une petite histoire qui m'a beaucoup marqué cette semaine, l'histoire de Walter Payton. C'est un ancien grand joueur de football américain. Il a une caractéristique, c'est qu'il fait 1m55, donc pas très très grand, mais il faisait 95-100 kilos. Une boule de muscles. Et son rôle, c'était quoi? C'était le dernier joueur, lorsqu'il recevait la balle, il devait courir dans l'embu, c'est-à-dire il devait passer une ligne pour marquer des points. Sauf que c'était le joueur le plus surveillé. Et dans sa carrière, sa très longue carrière, il a couru avec un ballon 15 km en match officiel. Et il s'est fait plaquer par des gens qui font 130 kg et 2 mètres 3800 fois. Sur 15 km. Pour résumer, ceux qui sont bons en maths, ça veut dire que tous les 4 mètres, il s'est fait démonter, comme diraient les jeunes. Il s'est fait écraser, il s'est fait taper tous les 4 mètres. Et il y a un journaliste à la fin de sa carrière qui lui a demandé « Comment vous avez fait ?» Parce qu'il a eu des blessures, beaucoup de blessures, mais « Comment vous avez fait à chaque fois pour revenir sur un terrain ?» Parce que quand vous faites écraser par 10 gars qui font 200 kilos des fois, qui sont costauds, je veux dire que vous réfléchissez. Et je vais vous lire la réponse qu'il a donnée. Un journaliste lui posa la question « Walter, comment avez-vous fait ? Être plaqué, être frappé tous les 4 mètres, comment vous avez fait ?» Il a répondu « J'ai simplement continué à me relever. » Peu importe les mauvaises décisions qu'on a prises, peu importe le Moab dans lequel on est empêtré, Dieu peut et veut nous délivrer, pas par nos forces, mais parce que lui, par son fils, par la relation qu'on peut avoir avec son fils, lui seul peut nous relever. Et lorsque Dieu relève, quand on lui confie tout, on se met à genoux, on pleure, il nous relève. C'est pas une blague. Et il peut relever de n'importe quelle situation. Il y a une chanson qu'on aime beaucoup avec ma reine qui dit « Il n'y a aucun problème ou aucune souffrance sur terre que le ciel ne peut guérir. Ça n'enlèvera pas les mauvaises conséquences, c'est possible. Par contre, on peut retrouver la joie de la présence de Dieu. Si on prend l'histoire de David, après Bathsheba, il a perdu toute crédibilité auprès de ses enfants. Mais malgré tout, si vous lisez le psaume 51, vous vous rendez compte qu'il a retrouvé la joie et la paix en Dieu. Je vous propose quelques secondes de silence. Je vous affiche juste trois passages qui m'ont beaucoup marqué dans différentes lectures, des passages connus, et qui peuvent nous aider à nous relever malgré les mauvais choix qu'on ait faits et à vivre la grâce, à vivre la compassion et l'amour de Dieu. Et je terminerai par la prière. Je vais vous lire une prière qui est dans le livre sur les mauvaises décisions. Seigneur, je te remercie car il existe plus de grâce dans ton cœur que de péché dans mon passé. J'ai eu mon lot de mauvaises décisions, mais je sais que tu peux me pardonner mon passé et couvrir mon péché, afin qu'il ne me sépare plus de ta présence et de ta sainteté. Merci pour Jésus qui est mort à ma place afin de me donner sa justice. Je n'apporte rien. Seulement le grand besoin que j'ai de toi. Je compte sur ta grâce pour me fournir ce que je n'ai pas. Amen.